Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Édition spéciale après l'attentat de Nice et avant le confinement qui reprend demain. C'est donc une nouvelle attaque au couteau qui a été menée ce matin vers 9h dans la basilique Notre-Dame de Nice. Trois personnes ont trouvé la mort. L'assaillant a été grièvement blessé par les forces de l'ordre. Emmanuel Macron est attendu sur place. Le parquet antiterroriste a été saisi. Très vive émotion à Nice, déjà endeuillée il y a 4 ans par la tuerie de la promenade des Anglais. Les services de renseignement avait donné l'alerte après des appels à commettre des attaques de ce genre. L'ancien président de la République, François Hollande, sera notre invité. La crise sanitaire, début du deuxième confinement demain, travail autorisé, école ouverte, mais déplacement interdit pour les salariés, télétravail quasi obligatoire, en primaire, le port du masque pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Les hôpitaux menacés de submersion, les projections de l'Institut Pasteur prédisent une quinzaine catastrophique, notamment en Rhône-Alpes, Auvergne. Douche froide pour la culture, théâtre et cinéma à nouveau fermés dès demain. En revanche, ruée sur les librairies à la veille de ce deuxième confinement. Voilà le sommaire jusqu'à 13h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La France à nouveau frappée, une attaque au couteau, comme pour Samuel Paty, dans un lieu de culte catholique, comme à Saint-Étienne-du-Rouvray pour le Père Hamel, et à Nice, comme pour la tuerie de la promenade des Anglais. Frédéric Michel, vous êtes sur place, tout près de la basilique Notre-Dame, près de l'avenue Jean-Médecin. Que sait-on de ce qui s'est passé ce matin vers 9h ?
Alors ce que l'on sait pour l'instant, Patrick, c'est qu'il était environ 8h50 ce matin lorsque l'attaque a débuté. L'assaillant, qui aurait une trentaine d'années, était en possession d'une arme blanche. Il a mortellement blessé 3 personnes à l'intérieur de la basilique Notre-Dame. On est dans l'hypercentre, un niçois, un sacristain de 45 ans environ, une septuagénaire et une fidèle un peu plus jeune, une trentaine d'années, qui réussit à s'enfuir et à se réfugier dans un bar voisin. Mais malgré l'intervention rapide des secours, la malheureuse a succombé à ses blessures. Daniel est serveur dans un autre café, situé non loin de l'église Notre-Dame.
On a vu une femme partir en courant. Partez, il y a un attentat, il y a des meurtres. Donc du coup, tout le monde est parti. Et ensuite, quelques minutes après, on a entendu les coups de feu.
Alors ce sont des policiers municipaux qui ont neutralisé l'assaillant à l'extérieur de Notre-Dame. Ils ont tiré sur lui à plusieurs reprises. Dans son sac à dos, ils ont découvert de nombreux couteaux. On ignore pour l'instant l'identité de cet homme. Mais pendant que les secours s'occupaient de ses blessures, l'individu n'a cessé de revendiquer son attaque en répétant « Allah Akbar ». Transféré à l'hôpital, son pronostic vital est clairement engagé. Sur place, un large cordon de sécurité a été mis en place et les démineurs viennent de terminer leur travail. On attend au début d'après-midi le président de la République qui sera accompagné du ministre de l'Intérieur, du garde des Sceaux, du chef du parquet national antiterroriste et du président de la conférence des évêques de France.
Et on l'a dit, Frédéric, l'émotion est très vive à Nice, 4 ans après l'attaque de la promenade.
Oui, une ville déjà meurtrie par le terrorisme. Tout le monde se souvient du 14 juillet 2016. 86 victimes sur la promenade des Anglais. L'ambiance est donc lourde ce matin et j'ai assisté à une scène il y a quelques minutes où une femme musulmane est voilée, appelait d'autres musulmans à dire non à cette barbarie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas notre religion. Nous devons nous lever, cette femme d'appeler tous les musulmans à venir dormir ce soir au pied de Notre-Dame pour marquer la solidarité avec les chrétiens, avec la France. Un peu plus loin, d'autres propos sont plus radicaux et concerne l'auteur présumé de l'attentat.
Frédéric Michel en direct de Nice pour Europe 1, Nice où le maire Christian Estrosi s'est ainsi exprimé, très affecté.
Je dois dire que Nice, comme la France et peut-être plus que d'autres lieux de France, aujourd'hui est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd en étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. Trop, c'est trop et il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire.
Le maire de Nice, Christian Estrosi. Guillaume Biel, les services de renseignement avaient alerté ces derniers jours sur le risque de voir se commettre d'autres actes de ce genre après l'assassinat de Samuel Paty et sur des consignes de groupes terroristes.
Oui, c'est exactement le type d'attaque que redoutaient les autorités, sanglantes, quasi imparables, et qui correspond à une menace clairement identifiée, puisque dimanche dernier, une agence de presse non officielle mais proche d'Al-Qaïda a diffusé un message très explicite qui appelait à commettre ce genre d'attaque meurtrière. Dans les heures qui ont suivi, toujours dimanche, ce renforcement de la menace a été immédiatement pris en compte par le ministère de l'Intérieur, qui a répercuté à tous les préfets, le ministre, une note détaillée de 3 pages dont nous avons pris connaissance, qui fait état noir sur blanc conscients du risque d'attaque à l'arme blanche, avec de nombreuses cibles symboliques potentielles, y compris les lieux de culte. À l'appui de cette note du ministre au préfet, le directeur général de la police a lui aussi envoyé des instructions dimanche à toutes les directions opérationnelles de la police pour les mettre en garde, les appeler à sécuriser davantage les rassemblements, je cite, notamment à l'occasion des célébrations religieuses de la Toussaint, mais aussi les associations et lieux de culte musulmans dont les responsables ont publiquement condamné les dernières attaques. La vigilance était donc maximale, elle est toujours. Cela n'a pas empêché l'acte terroriste de ce matin à Nice, acte barbare et revendiqué par le suspect qui a crié « Al-Qaïda ». Compte tenu de cet attentat et du contexte, les autorités viennent d'activer le niveau urgence attentat du plan Vigipirate. C'est le niveau maximal du plan. Conséquence immédiate, renforcement des patrouilles et des surveillances physiques autour des lieux de culte et des cimetières, avec le concours des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle renforcée.
Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Ce matin à Avignon, un homme armé a été tué par la police. L'assaillant aurait tenté d'attaquer les policiers. Il avait une arme de poing. Les fonctionnaires ont riposté. Le suspect a succombé à ses blessures. On n'en sait pas plus. Une enquête a été ouverte. L'ancien président de la République, François Hollande, qui était ce matin l'invité de Philippe Vandel dans Culture Média, nous a accordé quelques minutes d'interview. Je lui ai d'abord demandé quel était son sentiment alors que la France est à nouveau attaquée.
La France est attaquée depuis longtemps par les terroristes islamistes. Mais les formes changent. À mesure que le terrorisme lui-même recule dans certaines zones, on l'a vu en Syrie, en Irak, et que l'État islamique a été démantelé, le mode opératoire change lui aussi. Et on voit déjà depuis plusieurs années que c'est à travers des attaques au couteau de jeunes islamisés et radicalisés que les attaques se dirigent contre notre pays et contre des personnes qui ont forcément une symbolique. Et là, ce qui vient de se passer à Nice, je n'oublie pas ce qui s'était produit à l'été 2016, c'est un individu qui vient frapper dans une église 2, 3, 4 personnes pour créer justement l'horreur et entraîner la guerre des religions. Et c'est avec des moyens très rudimentaires. Donc on voit bien que les offices de propagande, eux, sont toujours les mêmes. Ils n'ont plus les mêmes moyens d'action, des équipes qui viendraient de l'étranger et qui nous attaqueraient, comme ça a été le cas le 13 novembre à Paris, les terrasses et le Bataclan, le Stade de France, mais de radicaliser des individus et de les conduire à commettre des actes de cette horreur.
Dans ces circonstances, le pays a besoin de cohésion nationale ?
Oui, plus que jamais, parce que nous sommes dans une guerre qui va durer longtemps et que nous sommes toujours devant chaque attentat, devant les mêmes questions. Comment faire pour déjouer? Comment faire pour que ça ne se reproduise plus? Comment faire pour savoir si les services ont fonctionné ou n'ont pas fonctionné? Il faut penser que ça va durer. Et donc, ne pas, bien sûr, être insensible à ce qui se produit. Nous vivons là une horreur telle que nous sommes tous en compassion et en solidarité avec les familles des victimes. Mais savoir que le pays est à l'épreuve et qu'il doit faire bloc et qu'il doit se tenir droit, être capable de fermeté, il en faut, de vigilance nécessaire, de lutte contre la radicalisation et contre l'islamisme, et aussi d'endurance par rapport à ce qui va se produire.
Hélas, ce n'est pas la seule épreuve. La France vit des temps troublés, sans doute comme elle n'en a pas vécu depuis longtemps. Crise sanitaire, économique, attaque terroriste. Que dire aux Français? Quel doit être le message dans ces circonstances qui sont particulièrement sombres pour le plus grand nombre de compatriotes?
C'est vrai qu'il faut remonter à loin pour trouver une période aussi bouleversée. C'est-à-dire de vivre une crise épidémique on n'avait pas connu depuis des décennies, une crise économique dont on ne voit pas encore tous les effets, mais qui va être tout à fait considérable et va entraîner un cortège de licenciements et de précarité, et cette crise terroriste. Et face à cet enchaînement, à cette coalition d'épreuves, nous devons collectivement être unis sur l'essentiel, ce qui n'empêche pas le débat politique. Mais la bonne réponse...
Il est vif, le débat politique.
Mais la bonne réponse, c'est pas la polémique, c'est pas les clivages. La bonne réponse, c'est d'être fort dans la démocratie. C'est que la démocratie n'est pas une contrainte, c'est la solution. et que les démocraties gagnent toujours contre les totalitarismes, contre la barbarie, et gagnent même contre, si je puis dire, les maladies, parce que nous sommes mieux organisés en démocratie. Donc s'il y a un message que je peux lancer, c'est défendez la démocratie, défendez la République, ne cédez en rien. Et c'est ainsi que nous pourrons sortir de ces crises, j'espère plus fort, en tout cas avec plus de dignité que si nous avions cédé.
Merci François Hollande.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, suite du journal, le mode d'emploi du deuxième confinement.
Europe Midi. Patrick Cohen.
La France confinée à nouveau à partir de demain pour au moins 4 semaines. Ce ne sera ni tout à fait pareil, entreprises et écoles vont fonctionner, ni réellement différent qu'au printemps, obligation générale de rester à la maison. On va détailler tout cela, ouvert ou fermé, autorisé ou interdit. Jean Castex, le Premier ministre, a donné ce matin devant l'Assemblée le sens de ce nouveau plan.
Parce que le virus accélère, nous devons accélérer aussi. Le but, lui, ne change pas. Sauver les vies de nos concitoyens. Il nous faut pour cela casser par tous moyens la spirale épidémique. Mais nous savons d'expérience que cette priorité, lorsqu'elle se traduit par un confinement, n'est pas exempte de conséquences économiques, psychologiques et sociales qui peuvent être graves. C'est pourquoi les modalités et les contours de ce nouveau confinement ne seront pas les mêmes qu'au mois de mars.
Propos recueillis par Claudia Bertram. Les écoles d'abord. La rentrée scolaire est donc maintenue lundi, avec l'hommage prévu à Samuel Paty. Dans quelles conditions, Virginie Salmen ?
Alors, on passe au protocole sanitaire numéro 2, a dit Jean-Michel Blanquer ce matin. 2/3, en fonction des scénarios de circulation du virus. La mesure la plus marquante, c'est le masque à l'école à partir du CP, donc pour les élèves dès 5-6 ans, confirmé ce matin par le Premier ministre. Il y aura une attestation de sortie spécifique pour accompagner ces enfants à l'école à partir de lundi. Les lycées vont donc rester ouverts, avec un enjeu de réduire le brassage des élèves. Ça a déjà été expérimenté au collège, mais jamais encore au lycée. Avec des établissements qui peuvent accueillir jusqu'à 1500 élèves. Pour réduire les effectifs, une partie des cours pourrait se faire à distance. Pourquoi pas le cours d'histoire ou de maths pour désengorger les lycées. On parle aussi de demi-classe dans certains niveaux avec une priorité accordée aux élèves de terminale qui passent le bac. On attend des détails dans l'après-midi lors d'une conférence de presse du Premier ministre Jean Castex et du ministre de l'Éducation nationale sur l'organisation des cantines et des cours de sport, lieux où les élèves ne portent pas le masque et où il faut assurer une distanciation.
Virginie Salmen, pour les salariés à présent et pour les entreprises, pas de cessation d'activité, mais le télétravail devient quasiment obligatoire, Olivier Samin.
Oui, Jean Castex l'a dit ce matin à l'Assemblée, dans le secteur privé, toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l'être 5 jours sur 5. On va donc retrouver le régime mis en place lors du premier confinement qui avait vu plus de 5 millions de salariés travailler de chez eux. Pour préciser tout ça, un nouveau protocole sanitaire va être mis en ligne dès ce soir par le ministère du Travail, lequel ministère rappelle que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés et que ne pas respecter cette règle, ne pas respecter en particulier l'obligation de déployer le télétravail au maximum de ce qui est possible, expose les entreprises à des condamnations au civil et même au pénal. Chez nos confrères de RTL ce matin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a d'ailleurs évoqué des contrôles et des sanctions possibles en cas de non-application du télétravail à 100%.
Télétravail donc là où c'est possible, mais activité économique maintenue partout ailleurs, c'est la grande différence avec le confinement du printemps.
Oui, l'activité s'exercera avec plus d'intensité, a dit Emmanuel Macron. Allusion au secteur de l'industrie et du BTP dont l'activité n'avait pas été interdite lors du premier confinement, mais qui avait traversé une période de flottement pendant quelques semaines dans l'attente de la définition des normes sanitaires. Depuis, tout est en place, il n'y a donc plus de raison de freiner le travail dans ces secteurs. Dans le secteur public, outre les écoles, collèges et lycées qui seront ouverts, les guichets des administrations seront accessibles, Pôle emploi par exemple, ou les caisses d'allocations familiales. Les audiences des tribunaux se poursuivront. Et puis, comme lors du premier confinement, les emplois à domicile, femmes de ménage, nounous, assistants de vie, continueront à s'exercer. Au fond, tout ce qui concourt à l'activité économique se poursuivra, à l'exception des secteurs qui font l'objet d'une interdiction administrative, les bars, les restaurants, les salles de spectacle et de cinéma et les commerces considérés comme non essentiels. Il y a juste une dérogation temporaire pour les fleuristes qui vont pouvoir travailler le week-end de la Toussaint mais qui devront fermer après.
Olivier Samin, voilà ce qui nous attend dès demain et pour les prochaines semaines, mais ce qui attend les hôpitaux s'annonce terrible. Et c'est ce qui a inspiré les décisions du président de la République, Victor Hollande. Les projections établies par l'Institut Pasteur dessinent pour les 15 prochains jours des afflux de malades plus massifs et plus meurtrier qu'au printemps dernier.
Oui, selon ses projections, le 6 novembre prochain, c'est-à-dire dans 8 jours, on pourrait compter jusqu'à 5700 patients en réanimation dans toute la France, ce qui représente 98% de l'ensemble des lits déjà disponibles dans le pays. Et si on regarde un peu plus loin ces projections, le 13 novembre, 8100 personnes pourraient être en réanimation, bien au-delà de nos capacités d'accueil. Et si on zoome sur les régions les plus touchées, en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de malades atteindrait 200% de la capacité maximale de réanimation. Ce qui veut dire que les hôpitaux de la région devront être aidés et les malades transférés. Quant à la mortalité, si on considère aujourd'hui que le nombre de contaminations est largement sous-évalué, on est plus aux alentours de 200 000 nouveaux cas par jour plutôt que les 35 000 annoncés par Santé publique France. On devrait donc se retrouver avec une mortalité quotidienne au-delà des 1 000 patients dans une semaine. Et déjà, les épidémiologistes que j'ai eus ce matin au téléphone redoutent que le coup de frein ne sera pas suffisamment brutal avec ce nouveau confinement, ce qui veut dire concrètement que la courbe devrait s'infléchir plus lentement que lors du premier confinement. On ne devrait pas voir les premiers effets avant 3 à 4 semaines.
1000 décès par jour.
Exactement.
Quand et comment envisage-t-on une levée des restrictions? Quel scénario pour les fêtes de Noël?
Alors, il y a déjà plusieurs scénarios sur la table, notamment un confinement qui pourrait durer plus longtemps, mais rien pour l'instant ne nous indique que ce scénario sera retenu. Ce matin, tout de même, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, a expliqué que le plus probable serait que le confinement, annoncé jusqu'au 1er décembre, s'achève par un couvre-feu qui resterait en place pendant les fêtes de fin d'année. Et quand on lui demande comment il voit les fêtes de Noël, il assure qu'elles seront forcément différentes, sans doute en petit comité. De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé la plus grande précaution aux Français pour ces fêtes, avec peut-être des tests à faire avant de rejoindre leur famille.
Merci à vous, Victor Hollande. Une pause.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, nous irons en Rhône-Alpes où les hôpitaux vont être submergés, d'après ce que vous venez de nous dire, Victor Hollande. Et puis la culture oubliée et à nouveau mise en sommeil.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Toutes les régions sont donc touchées par la crise sanitaire, mais on vient de l'entendre, il en est une où la vague menace d'être deux fois plus haute que la hauteur du parapet. Auvergne-Rhône-Alpes, qui d'après les projections Pasteur, pourrait connaître un nombre de malades en réanimation deux fois supérieur aux capacités actuelles des hôpitaux de la région. Jean-Luc Boujon.
Oui, absolument. Si l'on en croit ce schéma de projection, on aurait mi-novembre plus de 2300 malades du Covid en réanimation, alors que les capacités maximales de la région sont d'environ 1200. Une projection qui se base sur la progression actuelle du virus, qui est tout simplement la plus forte de France. D'ailleurs, tous les chiffres actuels sont alarmants. Par exemple, il y avait 3500 patients Covid hospitalisés hier. Ils étaient seulement 2000 il y a 10 jours. Hein, vous voyez le rythme. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de contaminations pour 100 000 habitants, est de 702 pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes contre 400 pour la France entière, avec des pointes dans deux départements, le Rhône et Lyon avec plus de 800 et surtout la Loire et Saint-Étienne, taux d'incidence de plus de 1100. Bref, tous les voyants sont au rouge, explique Jean-Yves Gral, le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
On est très préoccupé, bien évidemment, par cette augmentation et nous sommes en permanence en recherche de capacités. Les transferts de patients vers les autres régions sont un moyen d'adaptation et d'anticipation pour nous à travers le suivi qu'on fait des capacités en réanimation. Nous en avons fait 25 en une semaine, là, vers Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, que ce soit de la zone de Lyon ou de Saint-Étienne, et sont prévus avant la fin de la semaine 4 voire 8 transferts à nouveau.
Voilà, alors ces transferts sont une des solutions. Sur les causes, difficile d'en pointer une seule. Hein. Il n'y a pas eu de cluster comme à Mulhouse lors de la première vague. Il y a sans doute eu un relâchement plus fort sur les gestes barrières. Beaucoup de fêtes étudiantes aussi. On pense à celle de Saint-Étienne, hein, tout début octobre, qui avait réuni 150 personnes dans un tout petit appartement. En tout cas, les chiffres inquiétants sont là. Et donc, on compte ici encore un peu plus qu'ailleurs sur le reconfinement pour casser hein, ces fameuses chaînes de contamination.
Jean-Luc Boujon, à Lyon, pour Europe 1. La culture à l'arrêt, du moins en public, un brutal baisser de rideau pour les théâtres et cinémas qui avaient pu tenir jusqu'ici sous couvre-feu. La culture, étonnamment oubliée hier soir dans le discours d'Emmanuel Macron, peut être rangée dans les secteurs non essentiels. Le Premier ministre, en tout cas, a confirmé ce matin la fermeture dès demain de tous les lieux de culture, Angèle Châtelier.
Pourtant, depuis deux semaines, les salles de cinéma renaissaient de leurs cendres. Après le déconfinement, elles peinaient à dépasser le million d'entrées, mais il y en a eu 3 millions la semaine dernière, une hausse de 67%. Alors la fermeture des cinémas, c'est un nouveau coup dur. Johan Durand, directeur de développement du groupe Noé Cinéma, est abattu.
On était quand même sur une fréquentation très basse depuis la réouverture le 22 juin. Et c'est vrai qu'il y avait une belle embellie avec de nombreux beaux films. Évidemment, il faut aussi penser à ceux qui ont sorti des films et qui ont fait confiance ces dernières semaines. Je pense à Adieu les cons, je pense à nombreux films qui sont sortis là il y a quelques jours et qui malheureusement sont arrêtés. Donc on espère pouvoir les reprendre assez vite dès la réouverture.
Les tournées d'artistes aussi reprenaient peu à peu. Les salles qui ne peuvent plus accueillir de spectacles, c'est 200 millions de pertes d'ici la fin de l'année, ce qu'estime le Prodis, principal syndicat du secteur. Seule bonne nouvelle pour la culture, les répétitions, enregistrements et tournages pourront continuer lors de ce deuxième confinement pour préparer, dit Jean Castex, les activités de demain.
Angèle Châtelier, en attendant la fermeture, les librairies sont prises d'assaut par des lecteurs qui veulent faire le plein avant d'être enfermés à la maison. Reportage de Lionel Gougelot à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille.
Il y a la queue et plusieurs minutes d'attente aux caisses de la librairie du Ferry du Nord dans ce centre commercial de la région lilloise.
Il y aura un mois occupé, donc effectivement, il faut prévoir, anticiper.
Beaucoup de clients qui font provision de livres dans les dernières heures avant que le rideau tombe. Mais Olivier, chef de rayon, s'y attendait un peu.
C'est pas le premier confinement. Donc voilà, les gens sont souriants et nous disent on anticipe, on prépare pour les 4 prochaines semaines. On voit que les gens y attachent beaucoup d'importance. Et comme on peut le voir devant nous, là, aux caisses, les gens ont des gros paniers avec beaucoup de livres.
Les bras chargés de littérature jeunesse, Grâce, se prépare elle aussi à cette période particulière.
Se dire qu'il n'y a plus accès aux librairies et aux bibliothèques pendant le confinement. Du coup, on se dit faut plein de livres, comme ça on est sûr de pas non plus s'embêter trop et rester trop sur les écrans pendant le confinement.
Les ventes de livres ont augmenté de 50% dans les dernières heures avant le confinement. Pierre Courcière, président directeur général du Furet du Nord.
Il y a eu un vrai mouvement et sur le livre physique et on vend beaucoup de liseuses pour que les clients puissent par la suite acheter du livre numérique pour pouvoir télécharger des livres depuis leur domicile en confinement.
Reste un vrai sentiment d'amertume, voire de colère pour le PDG du Furet du Nord, que le livre ne soit pas considéré comme un produit de première nécessité. Un vrai coup dur avant la période des achats de fêtes de Noël.
Lionel Gougelot à Villeneuve-d'Ascq, au Furet du Nord. Le temps, Anissa Haddadi, plus doux dans le sud.
Oui, des Landes jusqu'aux Alpes-Maritimes, la journée sera très ensoleillée. Une atmosphère assez printanière quand même qui règne avec des températures douces. Sur le Grand Est, le risque d'averse persiste cet après-midi. Ailleurs, le ciel est plutôt couvert. Et sur le quart nord-ouest, les éclaircies sont de retour cet après-midi. Sur les côtes de la Manche, le bord de la Méditerranée et la Corse, attention, le vent souffle toujours. Et puis les températures, elles sont plus fraîches forcément sur la moitié nord avec 12 à 16 degrés, 16 pour Paris et 17 à 22 dans le sud. Samedi sera la plus belle journée de la semaine.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, le 13h et nos dernières informations sur l'attaque au couteau ce matin à Nice qui a fait 3 morts à la basilique Notre-Dame. Le gouvernement vient de porter le plan Vigipirate au niveau urgence attentat partout en France. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci de nous avoir suivis.